Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce matin est Sacha Bernert. Elle est militante de la France Insoumise, également candidate au municipal sur la liste Tracer l'avenir à Saint-Jacques-de-la-Lande, près de Rennes. Bonjour, merci d'être venu jusqu'à nous.
Bonjour Stéphane, bonjour aux éditeurs, aux éditrices.
Alors, vous avez pris le train pour être avec nous ce matin et pour parler de politique, ce qui en soi déjà est un exploit de parler de politique en ce moment parce qu'il y a beaucoup à dire. J'avais envie de vous entendre sur la situation politique. C'est une question qui revient souvent ici au micro de la matinale. Situation politique compliquée avec un budget qui a priori ne se votera pas dans les temps. On pointe beaucoup du doigt LFI en ce moment en disant oui, il y a une situation de blocage et LFI ne joue pas le jeu, quelque part le jeu démocratique. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ça?
Déjà que ce budget, c'est le pire budget de la 5e République. On disait déjà ça l'année dernière, mais c'est encore plus le cas aujourd'hui. Ils ont proposé de taxer les apprentis, les malades atteints d'un cancer. C'est des propositions qui sont complètement inhumaines. Je ne sais pas comment ils peuvent défendre ça. Mais pour ce qui est du blocage, depuis 2022, les députés n'ont jamais pu voter un seul budget proposé par le gouvernement. Celui qui bordélise aujourd'hui l'Assemblée, parce qu'on nous fait beaucoup le reproche, c'est Emmanuel Macron, en nommant des gouvernements qui durent moins de 24 heures, en faisant ces propositions absolument lunaires de taxation de malades atteints d'un cancer. On parle de gens qui sont en train de tout perdre, quoi. Et pour la première fois de la 5e République, le budget a été rejeté quasi à l'unanimité, à 404 voix contre 1. Donc le blocage, il n'est pas uniquement de notre fait, il est fait du gouvernement principalement, oui.
On n'a pas de débat finalement sur le budget, puisque là, il n'y a pas eu effectivement de vote pour adopter le budget. Le budget est parti au Sénat. On voit que le Sénat détricote en ce moment beaucoup des amendements qui avaient été adoptés par les députés. On s'achemine vers une commission paritaire, peut-être même, certains le disent, en tout cas certains observateurs politiques, une loi spéciale pour faire passer le budget ou des ordonnances, là aussi que permet la 5e République. On va se retrouver un petit peu avec un budget qui passe en force finalement.
Comme c'est le cas depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, pour bien comprendre, le budget passe d'abord à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, puis il passe en commission mixte paritaire, où la droite a une majorité dans cette commission. C'est-à-dire qu'ils auront la liberté de rétablir le budget de base qu'ils avaient proposé, avec toutes les horreurs que je viens de vous dire, et encore bien d'autres, dont le Sénat vient de rétablir la réforme des retraites qui... le Parti Socialiste avait prétendument obtenu son décalage. En fait, c'est tout ça qui va être passé en force. On va revenir au budget de base qui contient toutes les horreurs qui étaient proposées par le Cornu. Et on ne va pas pouvoir voter ce budget. Alors, soit il va passer par ordonnance, soit par une méthode encore plus autoritaire que le 49-3. Mais nous déposerons une motion de censure autour de décembre pour espérer faire tomber ce gouvernement et surtout ce budget et préserver les Français qui seront impactés par ce budget.
Alors justement, j'allais vous poser la question de la motion de censure. Je fais juste une petite parenthèse de service. On entend beaucoup de bruit ce matin dans le micro, et dans le studio de la matinale, car le nouveau studio se construit à côté et les ouvriers sont là. Donc voilà, soyez indulgents, amis auditrices, amis auditeurs, pour la qualité de la prise de son, comme l'on dit. On va continuer, Sacha Bernert, à parler de la politique, évidemment, et de cette motion de censure possible en décembre. Vous espérez que d'autres députés, pas forcément LFI, se joignent à cette motion de censure pour faire tomber le gouvernement ?
Ça sera à eux de le décider. On voit des voix un peu dissidentes au sein de la droite, notamment chez LR, des personnes qui appellent à la démission d'Emmanuel Macron, qui pourraient potentiellement voter cette motion de censure. Mais on va pas se voiler la face. L'enjeu actuel, c'est est-ce que le Parti Socialiste va une nouvelle fois sauver Emmanuel Macron et garder son gouvernement en place, avec toutes les horreurs que je viens de dire, ou est-ce qu'il va se joindre à nous et voter cette censure, faire tomber ce gouvernement? Et nous sommes les seuls, en fait, qui appelons à une élection présidentielle pour déjà revenir aux urnes dans cette situation de crise. On a atteint des records de dinguerie qui se passent dans la 5e République. Je viens de vous dire, le budget est rejeté quasiment à l'unanimité, un gouvernement qui dure moins de 24 heures, je crois que c'était 14, c'est absolument lunaire. Est-ce que le Parti Socialiste va continuer à soutenir cette folie du maintien d'Emmanuel Macron au pouvoir, ou est-ce qu'il va appeler, comme nous, à une présidentielle pour trancher entre les grandes orientations politiques du pays? On a d'un côté la relance écologique et sociale et le vivre ensemble que nous défendons avec le nouveau Front Populaire, où il y a penser qu'en enrichissant encore plus nos milliardaires et en ségrégant la population, en divisant le peuple en fonction de leurs origines, leur genre, leur orientation sexuelle, est-ce que ça va produire voilà, quelque chose de mieux pour notre pays? Je ne pense pas que c'est le cas parce que ça fait 40 ans qu'on fait ça déjà.
Il faut réparer cette société très fracturée parce qu'aujourd'hui on le voit, on voit la progression aussi du Rassemblement National. Un sondage récent donne Jordan Bardella presque président de la République. Alors on ne va peut-être pas précipiter les choses, il y a encore 18 mois quand même avant l'élection présidentielle. Mais est-ce que là aussi ce sont des signaux qu'il faut prendre en compte, des signaux qui sont envoyés par le peuple, 11 millions de personnes se sont déplacés pour voter pour le Rassemblement National. Est-ce que là aussi, il faut convaincre du côté de LFI pour dire, voilà, c'est pas la bonne voie?
Pour vous dire que la montée de l'extrême droite, c'est un phénomène mondial et surtout qui se passe en Europe. On le voit, en fait, suite à chaque gouvernement social-démocrate ou à tendance macroniste, on a une percée de l'extrême droite dans les résultats électoraux. Et les seules défaites qu'on inflige à la droite et à l'extrême droite, que ce soit en Allemagne ou à New York, c'est avec la montée de la gauche de rupture qui affronte le capitalisme. Parce que c'est ça, le centre du problème, c'est la rupture avec le capitalisme qui déjà a lancé le réchauffement climatique, qui pourrit nos services publics, qui pourrit notre pouvoir d'achat. Et c'est sur ça que l'extrême droite espère avoir des gains. Alors leur solution, c'est de dire « Ah bah si on tape sur eux et sur eux, vous allez pouvoir survivre un petit peu mieux au capitalisme. » Alors que nous disons « Il faut rompre avec ce système pour en créer un nouveau, celui qui partage les richesses. » On a des milliardaires qui se sont enrichis, mais de manière complètement indécente. On a proposé à l'Assemblée nationale une taxe de 2% sur le patrimoine des milliardaires. Et pire que Emmanuel Macron, c'est le RN qui s'est opposé le plus fermement à cette taxe-là. On parle de 2% sur une cinquantaine de personnes qui a été refusée par toute l'Assemblée. Je trouve ça complètement indécent. Ouais.
On parlait de motion de censure tout à l'heure. Le RN peut faire la bascule, lui aussi, en ajoutant ses voix à LFI pour que le gouvernement tombe. C'est quelque chose que vous avez du mal à accepter ou ça fait partie de la démocratie?
Ça fait partie de la démocratie. Malheureusement, on ne choisit pas qui vote nos motions de censure, et en tout cas, nous ne votons pas les leurs. Mais celui qui fait la bascule, c'est aussi le Parti Socialiste, parce que même le Nouveau Front Populaire et le groupe d'extrême droite assemblé, si le Parti Socialiste ne vote pas cette motion de censure, elle ne passera pas. Donc c'est à toutes les prétendues oppositions de clarifier leur position et de dire est-ce qu'ils sont avec Emmanuel Macron ou est-ce qu'ils sont contre. On ne peut pas laisser passer les horreurs qui sont proposées par ce gouvernement, ce budget qui passe en force. Déjà, rien que par la méthode, ça devrait être un motif de censure. Mais de plus, avec tout ce qui est proposé, pour moi, ce n'est pas possible.
Avec une forme aussi de rupture entre LFI, la France Insoumise donc, et le Parti Socialiste, il y a eu des mots très durs ces temps derniers, des passes d'armes parfois. Est-ce que le NFP a vécu, et est-ce qu'une page se tourne? On voit les socialistes, on va parler des municipales tout à l'heure, qui souvent dans plusieurs villes, c'est le cas à Rennes par exemple, se tournent vers les écologistes ou vers le Parti communiste. Est-ce que la rupture est consommée en quelque sorte?
Je pense qu'on va le voir dans les prochains mois. Moi, j'ai un certain dégoût en fait du monde politique, et je pense que beaucoup de gens le partagent, qui voient ça de loin, de voir les autres partis de gauche se faire vassaliser par le Parti Socialiste aux élections municipales, alors que celui-ci opère en même temps un changement d'alliance avec Emmanuel Macron pour sauver ses gouvernements. C'est pas la première fois, il avait fait pareil avec François Bayrou. Moi, je trouve ça assez dégoûtant, et une trahison en fait de leur mandat qui a été donné. Moi, j'étais là le soir de la dissolution et le soir d'après, avec tous les jeunes qui disaient « Unissez-vous, ne nous trahissez pas ». Et on est à peine un petit peu plus d'un an plus tard, et de voir toutes ces magouilles, tout ce monde politique-là qui ne pense qu'à leur place. Voilà, moi, je trouve ça assez répugnant.
Ça crée aussi un fossé entre les Françaises et Français et le monde politique. On le voit, vous parliez de dégoût tout à l'heure, Sacha Bernhardt, mais on le voit, il y a un refus aussi de la chose politique aujourd'hui, une défiance vis-à-vis du personnel politique. Est-ce que là aussi, il faut travailler, il faut recréer le lien?
Je le pense. Nous, du coup, on est en campagne municipale actuellement, et notre premier adversaire, c'est l'abstention. Et ce qu'on fait depuis un an dans notre campagne, c'est d'aller écouter les gens, on a fait plus de 50 actions de tractage et de porte-à-porte en un an, c'est d'aller écouter les gens, c'est quoi leurs problèmes, et de les intéresser au monde politique. Ce qu'ils nous ont dit, ce qu'ils nous ont répété, c'est voilà, les cours sont trop chers, leur logement est délabré, le bailleur social ne fait rien. La mairie de Saint-Jacques, vous en parliez, elle est dirigée depuis 55 ans par le Parti Socialiste et ces problèmes, ils durent depuis 10-20 ans dans la commune. La mairie de Saint-Jacques, elle pratique un pouvoir qui est très gestionnaire, très vertical. C'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de villes. À Rennes, c'est pareil. Et donc nous voulons nous placer en rupture avec cela, de proposer déjà d'impliquer les gens dans la politique. Quelques-unes de nos propositions, c'est déjà de décentraliser les pouvoirs du maire, c'est-à-dire que de partager le pouvoir, que ce ne soit pas juste une seule personne qui décide de ce qui se passe dans la commune, de mettre en place des référendums d'initiative citoyenne et révocatoire. Pour bien comprendre, ça permet à 10% de personnes habitantes dans une commune, représentées dans une pétition, de proposer un référendum, d'imposer un référendum, sur soit la révocation d'un élu en cas de trahison de leur mandat ou de faute grave, ou soit d'imposer une décision qui n'a été pas prise ou qui a été prise justement et qui a à défaire. Et une autre mesure que nous défendons, et ce sera la dernière, c'est les conseils de quartier citoyens. On croit beaucoup au tirage au sort, malgré que Macron n'ait pas respecté le résultat. La Convention citoyenne pour le climat, c'était quand même un succès de montrer que les gens qui peuvent se former prennent en fait des bonnes décisions pour leur territoire. Et nous pensons que créer justement des conseils de quartier citoyens, de personnes tirées au sort et rémunérées pour faire évoluer leur quartier, qui disposent d'un budget, d'un vrai pouvoir auprès du conseil municipal, ça peut être quelque chose qui implique les gens dans la politique à long terme.
Alors aujourd'hui, il y a des questions aussi de sécurité. Alors ça vaut à Saint-Jacques, ça vaut à Rennes, ça vaut aussi dans de nombreuses villes en Bretagne et bien au-delà. On entend beaucoup parler de la sécurité, du trafic de stupéfiants en particulier. Là encore, sans pointer Saint-Jacques particulièrement, mais puisque l'on parle de Saint-Jacques ce matin, est-ce que là aussi il faut prendre des mesures, il faut travailler sur la prévention, parfois sur la répression aussi? Est-ce que on dit souvent que la gauche a un problème avec la sécurité, vous allez peut-être me démentir. Est-ce que justement là aussi il faut avoir des actions fortes?
Je pense qu'il y a une difficulté dans le débat politique aujourd'hui, c'est que la sécurité, elle est toujours prise par l'aspect de la répression. Et c'est quelque chose qui est en place depuis plus de 50 ans, qui se passe dans tous les pays du monde, et à chaque fois on constate que c'est un échec total. Nous, ce qu'on nous proposons et qui, comment dire, ne fait pas le buzz entre guillemets parce que c'est pas des mots forts, c'est pas des choses un petit peu démagogiques, on va pas se mentir, de tripler les forces de police, malheureusement il y a des drames qui ne peuvent pas être évités par plus de policiers. Et donc nous pensons qu'il faut prendre les problèmes à la racine, par l'éducation, par la prévention, surtout au niveau des drogues. Il faut trouver déjà les raisons de pourquoi les gens tombent dans le deal, pourquoi les gens tombent dans la consommation. Il y a une personne sur deux en France qui a déjà consommé de la drogue. Ça, c'est un vrai constat d'échec. Ça devrait tous nous alerter.
Il faut une approche sociétale, finalement.
Mais je pense qu'il faut le prendre par l'aspect de la prévention et par l'aspect de l'éducation. Quand ça a été testé dans d'autres pays du monde, de prendre le problème de la consommation de drogue déjà par l'aspect précarité pour les gens qui tombent dans le deal, souvent c'est par précarité, c'est pas par j'ai envie d'emmerder le monde. C'est souvent une perte de sens dans sa vie, je trouve pas d'emploi, j'ai pas de sous, et donc ça c'est un peu la solution
facilité,
de facilité,
voilà.
Exactement. Et pour les gens qui sont dans la consommation, dans l'addiction, il faut trouver une approche médicale, de soins, d'addiction, pour ces problématiques-là. Et c'est pas du tout ce qui est fait aujourd'hui. Juste pour parler d'un dernier truc, sur la répression, la prison et la punition aujourd'hui, les sanctions contre les consommateurs de drogue, elles produisent... aucun effet sur la récidive. Les gens continuent après soit de consommer, soit de dealer. Donc il faut en fait avoir une prise de conscience de l'échec de cette politique-là de prohibition. Et nous sommes, par exemple, pour légaliser le cannabis, pour enfin pouvoir lutter contre.
Est-ce que c'est pas dangereux, justement, je me fais un peu l'avocat du diable, hein. Est-ce que c'est pas dangereux de légaliser le cannabis? On peut imaginer que demain, les réseaux mafieux qui pilotent le trafic de stupéfiants aillent plus loin et qu'il faille légaliser d'autres drogues. Une sorte de spirale infernale. C'est un petit peu le discours que l'on entend chez ceux qui ne sont pas partisans, justement, de la légalisation.
Mais moi, je vais vous dire, le danger, il est déjà là. Donc, imaginer quelque chose de plus dangereux, on peut le faire. On ne dit pas juste légaliser et après on rentre chez soi et on dort. On a toute une série de mesures, notamment de vraiment décupler les effectifs de police judiciaire pour arrêter de chercher le petit dealer dans le quartier machin, mais monter les têtes de réseaux de criminalité organisée, de narcotrafic dans ce pays. Il faut aller les chercher, il faut démanteler ces réseaux. Et ça, on peut pas le faire en triplant les effectifs de police municipale. Le travail de la police municipale, pardon, c'est pas de démanteler ces réseaux-là.
Voilà, faut enquêter, faut aller à plus haut niveau, faut casser les jambes justement des grands trafiquants.
On caricature souvent la France insoumise comme quoi elle serait anti-police, machin et tout. Mais en fait, c'est Emmanuel Macron qui réduit les effectifs de police judiciaire. Dans le budget, il est prévu une baisse de ses effectifs et nous avons toujours proposé une hausse de la police judiciaire. Et pour parler des élections municipales, nous sommes pour que la police municipale soit intégrée à la police nationale, qu'elle ait des meilleures conditions de rémunération et de refonder la police de proximité qui avait été supprimée par Sarkozy, je crois. Parce que ça, c'est une police en fait qui travaille déjà avec les habitants et les habitantes, qui est au plus près du local, du territoire, des gens, des commerçants, et qui ne fait pas tout simplement punir les consommateurs et les petits dealers de quartier. Ça, c'est le travail de la police judiciaire. Et on est pour que ces effectifs-là soient décuplés.
Est-ce qu'il faut l'armer, la police municipale ? C'est le grand débat que l'on entend aujourd'hui un peu partout dans les villes en France et là aussi en Bretagne. Selon vous ?
Nous sommes contre l'armement de la police municipale, déjà parce que dans les études et les bilans qui ont été faits de la police municipale quand elle est armée, il y a très rarement eu des effets positifs dans cet armement. Et il y a surtout eu beaucoup de dérives. Et ces dérives-là, on a du mal à les traiter déjà, parce que l'IGPN est faite comme elle est, parce que, comme ça se passe au niveau local, il y a très peu de visibilité là-dessus. Et donc nous sommes contre l'armement de la police municipale. On a beaucoup d'autres mesures qu'on propose justement pour la tranquillité publique. Déjà d'avoir de la présence humaine dans les quartiers, pas forcément avec de la police, mais avec des animateurs de rue, des médiateurs. Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place à Saint-Jacques aussi.
Voilà, les médiateurs qui ont un rôle essentiel finalement sur le terrain. Il y a aussi l'éducation. On entend beaucoup parler d'éducation aujourd'hui pour éviter justement aux plus jeunes de tomber dans la délinquance, dans le trafic de drogue, là encore. Là aussi, c'est un pilier d'éducation. Et comment une municipalité peut participer justement à cela ?
Bah déjà, c'est s'assurer que les parents d'enfants qui sont éduqués dans la commune, ils peuvent déjà permettre une bonne éducation à leurs enfants. Nous, on propose la cantine bio et gratuite dans toutes les écoles de là où on sera candidat au municipal, parce que y a des gens des fois qui ne peuvent pas payer en fait la cantine à leurs enfants, des fois leurs enfants ne peuvent pas manger le matin, ils peuvent pas étudier dans de bonnes conditions. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important. S'assurer aussi que les professeurs et les animateurs périscolaires peuvent travailler dans de bonnes conditions. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on propose. L'éducation, c'est un des piliers de trouver du sens à la jeunesse aujourd'hui qui a beaucoup de difficultés. Mais voilà, un enfant qui est bien éduqué, si on ne lui propose pas d'avenir derrière, s'il n'y a pas d'emploi, s'il y a de la précarité, forcément, c'est compliqué. Donc, on va faire le maximum au niveau municipal, mais on espère aussi gagner au niveau national.
Alors, on reproche souvent à LFI, j'ai des questions désagréables ce matin, pardonnez-moi, mais... on reproche souvent à LFI d'avoir une forme d'entrisme religieux avec, par exemple, ça a été tout le débat de ces temps derniers, avec une frange peut-être un peu plus rigoriste, et en l'occurrence les frères musulmans. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre ? Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est un fantasme ?
Bah écoutez, il y a une commission d'enquête lancée par Laurent Wauquiez sur le sujet. Moi, j'ai regardé ça avec beaucoup de... Enfin, ça m'a fait rigoler, quoi. Parce que du coup, ils ont auditionné je ne sais plus qui, mais voilà, quelqu'un qui est responsable des renseignements territoriaux et qui a dit qu'il n'y avait aucun lien entre des partis politiques et des groupes islamistes ou je ne sais pas quoi. Et justement, qui a rappelé que les attentats d'extrême droite, en fait, les attentats islamistes, ils étaient parfois financés ou aidés par des personnalités politiques d'extrême droite, dont un candidat du Rassemblement National. Donc moi, j'ai regardé ça. J'étais aux anges, quoi. Qu'est-ce que vous voulez dire à ça ?
C'est des prises d'opposition peut-être de LFI sur ce qui s'est passé à Gaza, ce qui s'est passé en Israël, qui ont, selon vous, cristallisé ces enquêtes qui ont été conduites par certains médias, alors rattachés peut-être plus à l'extrême droite.
Il y a une manière de diaboliser la France insoumise en utilisant le conflit israélo-palestinien et ce que nous disons sur lâcher la grappe aux musulmans dans ce pays. Je pense que tout le monde est au courant que... En fait, à chaque fois que le pouvoir est en difficulté, qu'il faut gagner des électeurs, machin, on parle du voile, on parle des musulmans, on parle de l'abaya, alors que il y a des gens qui peuvent pas, qui peuvent pas faire leurs courses, qui peuvent pas payer l'électricité, qui ont froid l'hiver. On parle des musulmans sans cesse. Et nous, nous sommes un petit peu le dernier rempart à ne plus supporter ça. On est pour une laïcité totale, qui n'est pas à géométrie variable. Et aujourd'hui, c'est complètement dévoué de son sens pour taper sur les musulmans. Nous n'acceptons pas ça. Sur le conflit israélo-palestinien, on est à plus de 2 ans de conflit. Je pense que tout le monde a vu les images et les vidéos de ce qui se passe là-bas. C'est absolument insoutenable. Je pense qu'on ne peut pas reprocher à la France insoumise ce qui lui est reproché pour avoir combattu ce qui se passe là-bas.
Avec une ville, là encore, on revient à Saint-Jacques, qui est très pluriculturelle, on pourrait le dire comme ça. On voit souvent des femmes qui portent le voile. Est-ce que, selon vous, c'est un problème? On entend des gens qui ne veulent pas que le voile soit porté dans l'espace public. Est-ce que, il faut aller très loin dans la laïcité, ne plus accepter le voile, par exemple, dans l'espace public?
La loi sur la laïcité permet aux gens de porter des signes religieux dans la rue. Il s'avère qu'on a une candidate sur notre liste qui porte le voile de temps en temps et elle me dit que à Saint-Jacques en tout cas elle se sent à l'aise de le porter, que ça n'a jamais dérangé personne. Et moi j'ai envie de vous dire quelque chose sur le voile, c'est que justement les personnes qui portent le voile aujourd'hui en France, c'est un signe d'intégration dans la société française. Parce que les premières générations qui sont arrivées en France, justement, n'osaient pas le porter parce qu'elles avaient peur du regard des autres, de ne pas se sentir à leur place, machin. Et aujourd'hui, les femmes, les jeunes femmes qui portent le voile, en fait, se sentent en sécurité, se sentent chez elles, elles sont chez elles, et du coup, peuvent porter le voile en toute tranquillité. Je trouve que c'est très bien pour elles.
Vous entendez les arguments de certaines féministes qui disent « Oui, mais c'est enfermer la femme, c'est finalement ne pas lui laisser le choix de se montrer en dehors d'un voile ou d'un costume traditionnel.
» Pour moi, ça doit rester un choix, tout simplement, que ce soit en Iran qui les femmes aient le droit de ne pas le porter, et en France, les femmes doivent avoir le droit de le porter. Moi, je n'irai pas plus loin dans cette polémique, parce que je pense qu'on a d'autres sujets à traiter. La position de la France insoumise, c'est que ça doit être un choix, et qu'il faut lâcher la grappe aux musulmans, très sincèrement. Il y a d'autres choses à traiter.
Alors justement, vous parliez tout à l'heure de pouvoir d'achat. On va en parler parce que c'est important. Les Français aujourd'hui ont du mal à boucler leur fin de mois. On le voit, certains disent même au 15 du mois, je ne sais pas comment je vais faire pour payer mon loyer, mon électricité, mon eau, etc. On a entendu d'ailleurs Sébastien Lecornu à propos de l'électricité qui a demandé à ce qu'il y ait un plan pour faire baisser les factures d'énergie des Français. On sent que ça arrive un petit peu tard. Est-ce que là aussi, il faut avoir véritablement une autre politique pour le pouvoir d'achat ?
Ça me fait bien marrer que Lecornu propose de baisser le prix de l'électricité alors que Emmanuel Macron l'a fait complètement exploser les prix. Tous les ans, presque tous les 6 mois, il y a une hausse du prix du tarif de l'électricité ou une hausse des taxes sur l'électricité. Nous, aux élections municipales, on veut aborder ce sujet du prix de la vie, de l'abordabilité du quotidien. Nous, ce qu'on propose, c'est au niveau municipal, on n'a pas énormément de leviers pour faire baisser le prix, mais déjà, c'est de geler le prix des loyers quand c'est possible. Le logement, c'est une question qui est hyper difficile pour beaucoup de gens. Aussi, de trouver des alternatives aux grandes surfaces et aux grands groupes qui, à Saint-Jacques, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que en plein cœur du quartier populaire de la ville, il y a un Carrefour Market que beaucoup de gens appellent le Carrefour Racket, qui est absolument hors de prix. Et donc les gens sont obligés de prendre la voiture, d'aller au Leclerc ou au Super U un petit peu plus loin, à Rennes, d'attendre dans les bouchons pour faire des courses à peu près abordables. Et nous, notre solution pour à la fois que les gens puissent faire des courses pas chères près de chez eux et d'éviter de prendre la bagnole et de polluer et tout ça, c'est d'installer une épicerie abordable avec des producteurs locaux pour que les gens puissent faire leurs courses en plein cœur de ce quartier populaire.
Alors, vous pointez aussi du doigt les déplacements Saint-Jacques-de-la-Lande, Rennes, c'est très proche. Et il y a aujourd'hui la possibilité de se déplacer en bus, le métro n'est pas très loin. Est-ce qu'il faut encore faire des efforts dans ce sens-là ?
Je pense que tout ce qui va dans le sens de proposer des transports alternatifs à la voiture, ça va dans le bon sens. Nous, on a le métro qui s'arrête. Enfin, Saint-Jacques, c'est une ville qui est très en longueur, on va dire. Il y a trois quartiers différents. Et au nord de Saint-Jacques, il y a le terminus du métro. Moi, je pense que ce serait positif qu'on puisse étendre ce métro à la ville de Saint-Jacques et aux autres villes de la métropole. Parce que moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup à Saint-Jacques, qui permet aux gens d'aller travailler plus facilement, d'éviter de prendre la bagnole, de pouvoir tout simplement voir leurs amis, aller boire un café. Quand voilà, il n'y a pas beaucoup de choses à faire à Saint-Jacques, donc ça permet aux gens de sortir. On peut aussi parler du vélo. Il n'y a pas de station de vélo qui s'appelle le Vélo Star à Rennes dans le centre de Saint-Jacques ni à l'aéroport. Donc nous, on fera les efforts qu'on peut pour développer les transports, mais c'est aussi une compétence de la métropole. La métropole est dirigée par le Parti Socialiste et donc voilà, on peut pas tout faire malheureusement.
Est-ce que Saint-Jacques vit un peu dans l'ombre de Rennes ? Voilà, on l'entend souvent, ça. On entend des gens qui disent « Oui, ah, Saint-Jacques-de-la-Lande » ou « Rennes-Saint-Jacques », ça c'est souvent lié à l'aéroport. Est-ce que là aussi, il faut amener une image différente de la ville ?
Je pense que Saint-Jacques peut se constituer en tant que ville elle-même à part entière et pas une succursale de Saint-Jacques. C'est vrai qu'au niveau de la politique, c'est souvent présenté comme un centre de formation des cadres socialistes pour ensuite devenir maire de Rennes. Nous, ce qu'on veut, c'est comment dire, que Rennes ne soit pas le décideur de toutes les décisions qu'il y a à prendre au niveau politique dans les villes de la métropole, et qu'on ramène des compétences dans les villes, parce que par exemple sur le logement, sur le transport, il y a plein de choses qu'on ne peut pas décider au niveau de la ville, et donc on va présenter un programme métropolitain avec la liste insoumise de Rennes pour essayer de décentraliser les décisions par rapport à Rennes et retrouver l'individualité des villes de la métropole.
On fait un petit pas de côté justement à Rennes. Vous parliez de Rennes ville socialiste. On sait que Nathalie Appéré se représente. Mais on sait aussi que là aussi, il y a une dissidence puisque LFI présente sa liste, que le Rassemblement national présente sa liste. Enfin, voilà, il y a pléthore de listes. La droite aussi qui voudrait faire une union peut-être pour amener l'alternance à Rennes. Comment vous la voyez, cette élection rennaise ? Voilà, ça c'est la petite question subsidiaire.
Je pense que ça va être très intéressant parce que il y a plein de trajectoires politiques qui sont à prendre et Rennes est dirigé par le PS depuis je crois que c'est un peu plus de 30 ans
1977 hein, oui, voilà. Voilà pour tout vous
donc
dire
ça fait quand même un moment et donc va y avoir plusieurs lignes politiques qui vont être à trancher. Et je trouve que c'est intéressant justement que les municipales prennent autant d'ampleur dans le débat politique aujourd'hui, que ça va être, je pense, l'élection va être un petit peu nationalisée aussi. Moi, j'ai hâte de voir ce qui ressort et j'ai hâte de voir Marie Mesmer, maire de Rennes.
Voilà, qui se présente à Rennes et que l'on a reçu ici et qui reviendra justement dans le cadre des élections municipales. Merci infiniment, Sacha Bernert. Merci. Je rappelle que vous êtes militante de la France Insoumise. Vous êtes candidate au municipal sur la liste Tracer l'avenir, donc à Saint-Jacques-de-la-Lande. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin, malgré une petite perturbation sonore. Je le rappelle pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, la construction du nouveau studio de Bretagne 5 avance avec les petits bruits qui vont avec. Merci infiniment, très belle
Merci
journée.
Merci beaucoup.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.